autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour interroger les matériaux anciens à la lumière des nouvelles techniques d'imagerie. Scanner, laser, synchrotron, accélérateur de particules et autres grands instruments permettent désormais de rendre visible l'invisible, de décrypter les œuvres d'art, de percer les mystères des fossiles et de visualiser même les cavités secrètes des pyramides, ouvrant un champ de recherche interdisciplinaire inédit en archéologie comme en histoire de l'art, à l'occasion de la première rencontre mondial patrimoine, sciences et technologies à l'Institut de France à Paris. Nous avons le plaisir de recevoir Loïc Bertrand, directeur du laboratoire Ipanema, organisateur de ce colloque international. La professeure Caroline Tokarski, qui a développé de nouvelles méthodes analytiques utilisées dans les plus grands musées du monde. Et la paléontologue Isabelle Rouget, spécialiste des céphalopodes fossiles, professeure et responsable du patrimoine géologique au Muséum National d'Histoire Naturelle. Nous serons également en ligne au Caire avec le professeur Hani Helal, coordinateur entre autres du projet Scan Pyramide, autour de la question pourquoi et comment réinventer les sciences du patrimoine. Bienvenue. Bonjour Caroline Tokarski.
Bonjour.
Bonjour Isabelle Rouget.
Bonjour.
Et bonjour Loïc Bertrand.
Bonjour.
Merci à tous les trois d'être en direct avec nous pour ces premières rencontres mondiales des sciences du patrimoine. Près de 2000 personnes sont attendues dans le nouvel auditorium de l'Institut de France à Paris, à la veille de ce colloque international que vous avez organisé, Loïc Bertrand, qui rassemblera donc pendant 2 jours les plus éminents chercheurs du monde entier dans le domaine des matériaux anciens. Un champ de recherche en plein essor, en plein renouveau aussi. Vous-même, Loïc Bertrand, vous êtes physico-chimiste, directeur du laboratoire Ipanema, chercheur au synchrotron Soleil, l'un des grands instruments qui permettent de voir l'invisible, hein, de pénétrer au cœur même de la matière, dans les secrets des œuvres d'art, mais aussi d'objets archéologiques ou de très anciens fossiles, sans les altérer de façon non-invasive. C'est ça qui a tout changé. Est-ce qu'on peut parler, Loïc Bertrand, d'une vraie révolution en marche dans ce domaine des sciences du patrimoine ?
Alors effectivement, je pense que vous avez raison. Actuellement, on voit des grands changements dans le domaine des sciences du patrimoine et des matériaux anciens. Alors, ces changements sont de diverses natures. L'un d'entre eux, très clairement, est lié au développement de nouvelles technologies, en particulier de l'imagerie. On peut penser également aux changements très importants du côté des sciences des données. Et également, je dirais, des nouveaux paradigmes de recherche rapprochant en particulier les sciences humaines et sociales et les sciences de l'environnement. Les sciences de l'environnement aujourd'hui prennent une ampleur tout à fait particulière du fait des problématiques environnementales. Et on va rechercher également dans nos objets archéologiques, paléontologiques ou du patrimoine culturel ces questions environnement, société, qui sont également source de beaucoup de créativité actuellement dans ces champs scientifiques.
C'est ça, ça permet en fait de porter un autre regard à la fois sur les objets anciens du passé, d'étudier autrement en lien, en interdisciplinarité, à la fois le passé, le présent et du coup de prévoir et préparer autrement le futur ?
Oui, l'interdisciplinarité est vraiment au cœur de ces problématiques de recherche, c'est-à-dire la capacité d'associer des scientifiques venant d'horizons ou professionnels, d'ailleurs, on peut penser aux personnes travaillant dans les sciences de la conservation ou la restauration, et donc de les associer autour de programmes de recherche qui permettent à chacun d'apporter une brique à l'édifice sur des systèmes qui sont quand même d'une extrême complexité. Et donc, effectivement, de les regarder d'un point de vue des sciences humaines et sociales, du point de vue de la chimie, de la physique, des sciences des données de nouveau, mais également de tous les champs de l'archéologie, de la paléontologie et des paléo-environnements qui sont au cœur de la discipline.
Caroline Tokarski, alors vous êtes professeure des universités, membre de l'Institut universitaire de France. Vous dirigez aujourd'hui la plateforme Protéome de l'équipe de recherche de l'Institut de chimie et biologie des membranes des nanosobjets à Bordeaux. Vous venez également d'être nommée co-directrice d'un tout nouveau laboratoire international associé entre le CNRS et le célèbre METS, le Metropolitan Museum of Art de New York, où vous allez apporter votre expertise, Caroline, car vous avez développé de nouvelles techniques d'analyse des tableaux qui sont désormais utilisées dans les plus grands musées du monde. C'est nouveau, cette collaboration étroite, interdisciplinaire, entre, en l'occurrence, une chimiste et des conservateurs de musées.
Non, la collaboration, en fait, est pas nouvelle. D'ailleurs, cette collaboration avec le Metropolitan Museum of Art date d'il y a plusieurs années maintenant. Donc là, c'est plutôt l'officialisation de cette collaboration. L'objectif, ça va être d'implanter au sein du musée des techniques qui vont être utilisées en screening pour étudier les différentes œuvres d'art, leur composition, pour mieux les comprendre et pour mieux les restaurer aussi.
Oui, c'est les deux volets. C'est-à-dire qu'il s'agit à la fois de percer un peu les secrets de fabrication, mais aussi de conserver les chefs-d'œuvre, les tableaux.
C'est révéler les secrets de formulation des grands maîtres et d'autre part, de mieux les préserver, c'est-à-dire regarder au niveau moléculaire l'impact des traitements de restauration. Est-ce que les biomolécules ciblées sont dégradées ou, voilà.
Et donc, du coup, ça permet d'aller vraiment dans l'infiniment petit, derrière, de l'autre côté du miroir, dans l'infiniment petit.
On va travailler, en fait, au niveau moléculaire, donc des protéines, des lipides, des polysaccharides et leur structure, en fait. Donc, on va très, très précisément les caractériser leurs modifications, leur réticulation, est-ce qu'elles forment des réseaux, est-ce qu'elles sont clivées, comment elles interagissent entre elles aussi.
Oui, c'est pas le même regard qu'un conservateur de musée, c'est évident. Isabelle Rouget, vous êtes paléontologue. Vous venez d'être nommée professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous êtes spécialiste des céphalopodes fossiles et du patrimoine géologique. Alors là encore, c'est tout un patrimoine naturel, hein, que ce soit les petits organismes fossiles ou les cailloux qui les entourent, aujourd'hui qui peut être revisité, réexploré dans leur essence même par toutes ces sciences du patrimoine.
Oui, ben parfaitement. Tous ces objets fossiles qui sont des témoignages de l'état de l'environnement, de l'état de la Terre passée, renferme des informations qui n'étaient pas accessibles auparavant, qui n'étaient pas accessibles sans des techniques d'analyse de la composition, de la structure ou de la chimie de ces matériaux.
Ça permet de révéler là aussi, de faire parler en fait ces fossiles ou ces cailloux.
Voilà, ça permet de faire parler ces fossiles en fait, et dans leur composition et dans la manière dont ils se sont fossilisés, ils ont enregistré des informations qui peuvent être sur leur évolution, sur le climat, sur des paramètres environnementaux. Et avec des techniques analytiques, on va pouvoir essayer de retrouver ces informations. Et ces informations, parfois, elles n'étaient pas visibles. Il n'y a que les appareils, les nouvelles techniques d'analyse des matériaux qui nous permettent d'observer et de mesurer, de quantifier ces informations.
On va revenir sur toutes ces techniques et ces nouvelles technologies, notamment d'imagerie, autour de la question comment se réinventent les sciences du patrimoine aujourd'hui. Direction d'abord les pyramides d'Égypte, qui commencent à livrer quelques-uns de leurs secrets grâce aux capteurs de muons, notamment, de la mission internationale Scan Pyramide qui a détecté, si j'ose le dire comme ça, un vide, une cavité secrète à l'intérieur même de la pyramide de Khéops. C'était en 2016. L'info a fait le tour du monde après avoir fait la une de la prestigieuse revue Nature. On se rafraîchit un peu la mémoire en écoutant un extrait de la réunion au sommet des chercheurs japonais avec les co-directeurs égyptiens de Scan Pyramide.
En observant vers le haut depuis ces deux endroits, nous avons trouvé une énorme cavité qui s'allonge dans la même direction que la Grande Galerie.
C'est en déplaçant le scintillateur sur la seconde position que nous avons pu trouver cette nouvelle structure, ce qui confirme les résultats de Nagoya.
Alors il faut enlever anomalie, il faut mettre cavité maintenant.
Même le CEA de l'extérieur parvient à détecter cette cavité et confirme l'existence de cet immense vide.
Un vide bien mystérieux, une cavité secrète dans la pyramide de Khéops, c'est une des incroyables découvertes de cette mission Scan Pyramide. Son co-directeur, le professeur Annie Elal, est un pionnier de ces sciences du patrimoine, ancien ministre de la Recherche en Égypte. Il est actuellement professeur à la faculté des ingénieurs du Caire et président de l'université Saint-Gord d'Alexandrie. Annie Elal est invité évidemment à ce colloque patrimoine, sciences et techniques. Il est en train d'atterrir à Paris, nous l'avons joint par téléphone juste avant son départ, il était au Caire. Annie Elal revient sur la genèse de cette mission Scan Pyramide et sur ses impressionnantes découvertes.
Dans le domaine d'appliquer la science pour la préservation du patrimoine, donc on a une idée de scanner. C'est exactement comme vous allez chez le médecin et vous demande des radios. Mm-hmm. Donc nous, on fait le scan des pyramides. Et l'avantage, c'est qu'on utilise des techniques et des technologies qui ne sont pas agressives, donc non destructives, si vous voulez. Donc ça ne touche pas le pyramide. Nous, on ne touche pas le pyramide. Hein. On ne fait pas de forage, on ne touche pas le mur, on ne fait rien. Donc on met nos appareils, on regarde, on fait les analyses. Donc ça fait vraiment une révolution pour voir à l'intérieur. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à valider une théorie de la construction de cette pyramide. Donc, parce qu'il y a des hypothèses. Pour nous, une théorie, donc, c'est-à-dire on peut le prouver. On a des évidences. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas des évidences, donc si vous voulez, on n'a pas de traces pour dire cette théorie ou bien l'autre qui est valide. La seule question pour répondre, et la technique pour répondre à ça, est de voir comment à l'intérieur du pyramide. Nos résultats disent qu'il y a d'autres vides. Bon, on ne cherchait pas de chambre secrète, on ne cherchait pas de trésors. Nous, on cherche du vide.
Oui, vous cherchez du vide et vous en avez trouvé d'ailleurs. Enfin, grâce notamment à des capteurs de muons, vous avez trouvé un vide, alors chambre secrète, point d'interrogation, dans la pyramide de Khéops.
Nous, notre travail s'arrête, notre résultat s'arrête si on valide le résultat. Donc, c'est-à-dire, nous, on a trouvé deux vides, c'est pas un seul vide. Mm-hmm. Il y a la grande vide qu'on a publiée dans la revue scientifique Nature, mm-hmm. et l'autre, donc, il y a un couloir derrière l'entrée nord du pyramide. Bon, est-ce qu'on est sûr de ce résultat? Du point de vue scientifique pur, oui. Maintenant, il faut aller plus loin. Comment on fait pour trouver si c'est bon, ce vide? Est-ce qu'on fait un trou? On met un endoscope? On met un robot, un micro-robot? Bon, actuellement, on utilise trois techniques différentes. C'est la même méthodologie. C'est la même base scientifique. C'est les muons. Mais le muon, il y a différentes techniques. Il y a la technique française des CEA, il y a la technique japonaise, il y a deux techniques japonaises. Actuellement, on a d'autres techniques qui sont nous contactées. Une équipe italienne, une équipe américaine et japonaise. Bon, on va leur dire où ils mettent leurs appareils et pour voir qu'est-ce qu'on voit. Parce que bon, c'est dans notre intérêt qu'il y aura d'autres personnes qui sont les bienvenues pour vérifier et confirmer ce qu'on voit.
Loïc Bertrand, vous voulez réagir à ces propos du professeur Annie Elal que vous avez bien sûr invité dans cette rencontre mondiale internationale autour des sciences du patrimoine.
Alors effectivement, Annie Elal fait partie des intervenants phares, je dirais, de ces rencontres mondiales qui vont regrouper 2500 personnes sur Paris avec, à l'invitation de notre laboratoire Ipanema, de l'Académie des sciences et du groupement interacadémique pour le développement. Je pense que Annie Elal insiste sur un point qui est extrêmement important, qui est celui de l'image et de la difficulté ou de toute l'importance de pouvoir caractériser des systèmes ici à très grande échelle, là sur des pyramides ou sur des cavités dans des pyramides entières, à différentes échelles. Donc comment réussir à voir une cavité au sein d'un objet, ce qui pour nous est en écho avec tout le développement de l'imagerie.
Oui, parce que pour nous c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'en fait, ensuite après on va dire, oh là là, une chambre secrète, mais ce que vous cherchez grâce à ces appareils-là, c'est à caractériser un vide qu'on ne peut pas voir puisqu'il est enfermé à l'intérieur d'une pyramide. C'est ça, hein.
Alors là, effectivement, on est devant presque une dimension assez paradoxale. Ouais. Paradoxale, c'est-à-dire que, mais c'est des choses qu'on retrouve assez souvent sur nos systèmes. L'absence, alors en allant un petit peu plus loin, sur beaucoup de systèmes archéologiques ou paléontologiques, on se pose effectivement la question de ce qui n'est plus. Et de réussir à partir de la caractérisation que l'on a des systèmes tels qu'ils sont aujourd'hui, comment effectivement ils ont été assemblés et comment ils ont évolué au cours du temps, ce qui est pour nous une question centrale en fait.
Ça permet de revisiter finalement, là je pose la question à tout le monde, ça permet de revisiter finalement à la fois des objets du patrimoine que l'on va découvrir aujourd'hui, mais aussi évidemment d'aller dans les collections ou d'aller sur place et de revisiter complètement tout ce qu'on a pu trouver jusqu'à maintenant, Isabelle.
Oui, moi je trouve que quelque chose d'intéressant dans ce qui a été dit, c'est il a dit voilà, on a des hypothèses et cette méthode-là va nous permettre de les tester. Et à la fin, il nous dit aussi voilà, tout ce qu'on a là, d'autres équipes peuvent venir pour vérifier. Et ça résume complètement le processus scientifique. Donc ça montre bien aussi qu'on est complètement dans un processus scientifique solide quand dans la démarche là, dans le cas des pyramides. Et effectivement, il y a une hypothèse et les scans là, l'imagerie va permettre de la tester, effectivement, d'aller réexplorer d'une autre manière cet objet pyramide que l'on avait étudié d'une manière différente auparavant,
un peu plus dans, probablement dans l'observation.
Et ce qui veut dire aussi, vous parlez d'hypothèse avant, vous n'allez pas mettre ces énormes machines n'importe où, n'importe comment. Il faut évidemment bien réfléchir avant. D'abord, je crois que pour aller au synchrotron soleil, la liste d'attente est longue, hein, pour aller scanner ou pour aller mettre la lumière sur un objet particulier. Mais il faut savoir ce qu'on cherche. Enfin, c'est quand même, évidemment, c'est quand même bien très complexe.
Alors ça, c'est une question effectivement très importante. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut avoir un point de départ et en même temps, ce qu'on voit dans l'étude scientifique, c'est que souvent, ce point de départ va dévier. Donc, on voit que les équipes qui viennent étudier un système particulier sur le synchrotron, par exemple, avec une forte pression, comme vous
alors,
le disiez.
Le synchrotron...
Alors, le synchrotron, c'est un grand instrument qui fournit de la lumière, en particulier des rayons X, qui sont utilisés pour à la fois de l'imagerie et de l'analyse ponctuelle par spectroscopie des objets, pour en déterminer la composition, la structure et les propriétés physico-chimiques.
Et donc les chercheurs qui viennent...
Donc nous, on l'utilise effectivement à la fois pour comprendre de quoi sont faits les objets, quelles sont leurs propriétés physiques. Typiquement, si on analyse un fragment de peinture, on va y chercher à la fois la composition des pigments qui ont été utilisés, éventuellement les produits d'altération qui font qu'au fur et à mesure, en fait, le grain de pigment va avoir interagi avec son environnement immédiat. Et pour cela, en fait, on a besoin d'outils qui couplent à la fois de l'imagerie et de l'analyse physico-chimique fine pour comprendre des systèmes qui, à la fin, sont quand même d'une très grande complexité. Parce que des systèmes qui n'ont pas été fabriqués, je dirais, de manière synthétique avec des produits extrêmement purs et qui, par ailleurs, ont été très altérés.
Oui, donc finalement, c'est voir l'invisible, mais c'est voir l'invisible pas seulement avec ces scanners, etc. C'est aussi en étudiant finement ce que vous faites, vous, Caroline Tokarski, au niveau moléculaire, au niveau nano.
Oui, tout à fait. Alors là, c'est vrai que c'est un autre niveau de on va dire
d'appréhension, de vision, ouais, de vision de l'objet, quel qu'il soit.
Là c'est vraiment le niveau structural moléculaire et où on va très finement justement caractériser ces structures pour en déduire un maximum d'informations
Et les caractériser, c'est toujours non invasif, c'est-à-dire qu'en fait c'est sans y toucher. Il s'agit de tableaux de maîtres, d'œuvres d'art.
Cette technique en fait basée sur la spectrométrie de masse de haute résolution est invasive, mais on va dire micro-invasive et si je puis dire, on va travailler sur des grains de poussière toute la méthodologie a été optimisée pour impacter au minimum l'échantillon. Donc on va travailler vraiment sur une poussière,
sur un tableau de mètre, une poussière ancienne.
Voilà, ancienne, où on va extraire un maximum d'informations pour identifier, donc bien caractériser ces biomolécules, mais aussi leur origine biologique et leur interaction en fait au sein d'un échantillon.
Autour de la question comment réinventer ces sciences du patrimoine, on continue de changer de regard sur les objets du passé grâce notamment aux techniques d'imagerie les plus modernes. Juste après un arrêt musical entre Istanbul et Amsterdam, c'est votre choix Loïc Bertrand, je crois que c'est ce que vous écoutez pendant de longues manipulations. Vous nous faites découvrir en tout cas les envoûtants métissages d'Altin Gün sur RFI. psychédélico oriental d'Eltyn Gün, qui résonne, je crois, pendant les longues nuits et longues journées au synchrotron soleil. En tout cas, nous, c'est tout ce qu'on aime sur RFI. Merci Loïc Bertrand. Autour de la question comment réinventer les sciences du patrimoine à la veille du colloque international à l'Institut de France et des premières rencontres mondiales patrimoine, sciences et techniques. Nous continuons de découvrir en votre compagnie, Caroline Tokarski et Isabelle Rouget, comment faire parler les objets du patrimoine naturel et culturel après les pyramides, avant les fossiles. C'est au tour des œuvres d'art et des tableaux de maîtres de passer au scanner Graphène des chercheurs de l'université d'Oviedo en Espagne.
Comment déceler ce qui est invisible à l'œil nu dans une œuvre d'art de manière précise et non intrusive?
On a pu mesurer l'épaisseur du vernis et des couches successives de couleurs. On a pu observer s'il y avait des études préparatoires sous la peinture actuelle et comment elles avaient été faites. On a aussi pu voir si le scanner était capable d'identifier les différents matériaux utilisés, comme les vernis, les liants et les pigments.
Caroline Tokarski, alors vous aussi vous percez les secrets de fabrication des œuvres grâce à de nouvelles méthodes d'analyse que vous avez mis au point et qui sont désormais utilisées dans de nombreux musées, notamment les plus grands à travers le monde. C'est une révolution pour l'art quand même.
En fait, ces techniques permettent maintenant d'avoir plus d'informations par rapport à ce qui existait précédemment. C'est-à-dire là où on arrivait initialement à trouver avec des techniques plus communes d'identifier un type de liant organique, par exemple, je dirais un liant à base d'œuf, à base de lait ou de colle animale, on va maintenant très précisément caractériser les biomolécules en question. Quand il s'agit de mélange, on va avoir des informations plus précises. On va avoir des informations sur leurs modifications chimiques.
Tableau vous auriez pu travailler ou identifier des choses?
Sur les modifications chimiques, en fait, je peux vous donner deux cas d'études. En fait, d'une part, alors peut-être pas un cas d'étude ciblé sur une œuvre, mais plutôt des techniques de restauration qui vont être plutôt, on va dire, impactantes au niveau moléculaire, qui vont maintenant être modifiées dans les différentes.
On n'utilisera plus les mêmes méthodes de restauration.
Tout à fait. Et un cas, alors qui n'est pas peut-être appliqué à une œuvre d'art, type peinture d'art, mais par exemple à un manuscrit ancien. Donc on travaille actuellement avec le Metropolitan Museum of Art et le Morgan Library de New York sur des manuscrits coptiques, en fait, qui sont les textes religieux datés de 800-900 après Jésus-Christ. Et on va dire, avec la chimie de ces biomolécules, on est en train d'élucider des recettes secrètes de restauration du Vatican, voilà, qui avaient été gardées...
qui avaient déjà eu lieu. Vous pouvez descendre dans les sous-couches, j'ai envie
Alors,
dire.
Alors, c'est pas les sous-couches, c'est l'impact des traitements qui ont été utilisés à l'époque, en fait, pour essayer de préserver. On va venir les redécouvrir et on va venir les identifier très précisément au niveau moléculaire. Donc là, c'est des réticulations.
Ce qui veut dire que tu peux aussi, évidemment, authentifier des œuvres d'art, authentifier des manuscrits.
C'est un des objectifs. Actuellement, l'authentification ne se fait pas par les liants organiques, en tout cas pas avec ces méthodes-là. Et c'est vrai qu'on a en projet, on travaille sur cette question où les liants organiques pourraient être utilisés comme méthode d'authentification, parce que justement ils ont des réticulations et des modifications chimiques qui vont être différentes. Un vieillissement accéléré va pas forcément produire les mêmes modifications.
Si on a accéléré le vieillissement. Parce qu'on vous dit les liants organiques, c'est-à-dire que sur toutes ces œuvres, il y a quelques petits organismes vivants.
Les liants organiques, enfin les matériaux organiques, c'est vraiment les protéines, les lipides, les sucres, en fait.
Dans les matériaux utilisés.
Un œuf, par exemple, va être composé de différentes protéines, de lipides également. Donc on va très précisément identifier ces molécules, les caractériser.
Et sur quoi portent vos recherches et vos travaux, alors notamment en lien avec le Metropolitan Museum of Modern Art, le MET, c'est un des plus grands musées du monde. Vous dites que ça fait longtemps que vous collaborez avec eux, mais là, ça s'officialise vraiment. Oui. Sur quoi portent vos recherches, alors, vos travaux précisément?
Sur différents objets, déjà, là, ils ont une collection très très vaste avec des questions très diverses. Hein, et c'est des questions qui vont de ce qu'on vient d'évoquer sur les, les peintures d'art jusqu'aux objets archéologiques, c'est-à-dire qu'on va travailler aussi bien sur des œuvres d'art que sur des amphores pour identifier précisément les matériaux qui ont été absorbés, pour comprendre des contextes sociétaux et mieux expliquer les objets. On va travailler sur des instruments de musique, sur des
fibres, oui, des instruments de musique anciens pour arriver à déterminer comment ils ont été faits.
Alors c'est comment ils, enfin encore une fois c'est les matériaux organiques en fait, les huiles ou les vernis, et puis et caractériser un petit peu les structures moléculaires en fait, toujours dans un esprit de meilleure conservation ou de meilleure compréhension de ces objets en fait.
Mais en même temps vous devez, j'imagine, vous êtes chimiste, travaillez en étroite collaboration avec des gens qui connaissent parfaitement les objets que vous utilisez. Comment, c'est de l'interdisciplinarité, mais comment on fait pour étudier? On n'étudie pas de la même manière, j'imagine, un tableau de maître, une amphore et un manuscrit
Tout ancien. À fait. Alors déjà, ce n'est pas les mêmes interlocuteurs au sein du musée. Sûr. Alors il y en a certains qui restent les personnes qui sont vraiment liées au département de scientifique, mais après, c'est vrai que les conservateurs sont experts dans leur domaine. Alors c'est vrai qu'il faut, les premières réunions, il faut d'abord comprendre leurs questions et comprendre l'objet. Et tout à l'heure, Loïc Bertrand le disait bien, que de temps en temps, on va initier, on va dire, des analyses, et puis elles sont déviées au fur et à mesure, parce que voilà, on trouve certains résultats à un moment donné de nos expériences, et du coup il y a un échange permanent entre les conservateurs.
Mais c'est à ce qu'on cherche, comment on le cherche, et ça dépend de ce qu'on trouve.
Et en fonction de ce qu'on trouve, on rediscute, et puis on fait évoluer la recherche sur l'objet en question.
Vous le disiez donc, ces sciences du patrimoine, toutes ces nouvelles techniques permettent de revisiter d'anciens objets d'art, d'archéologie. Alors c'est notamment le cas d'une mystérieuse amulette que, grâce à de nouvelles méthodes d'imagerie, a pu révéler de nombreux secrets. Je propose d'écouter cet extrait du journal du CNRS.
C'est une petite amulette rescapée d'un lointain passé, au cœur d'une énigme scientifique. L'objet a été découvert en 1985 sur le site archéologique de Mergar, dans l'actuel Pakistan. Son âge, plus de 6000 ans. Les scientifiques ont longtemps buté sur les secrets de fabrication de cette amulette rongée par le temps. Aujourd'hui, de nouvelles technologies permettent de remonter le fil de son histoire mystérieuse. Pour sonder plus finement la structure de ce petit anneau métallique, c'est un autre anneau, bien plus grand, qui est mis à contribution. Le synchrotron Soleil, au sud-ouest de Paris, permet d'étudier la photoluminescence de l'amulette. La technique consiste à bombarder l'objet de rayons lumineux, puis à analyser les rayons réémis par les différents composés. La méthode dévoile des détails invisibles avec d'autres techniques d'imagerie.
La photoluminescence de la mystérieuse amulette de Mesgar, on dirait un conte. Vous nous en dites plus sur cette fabuleuse histoire, Loïc Bertrand?
Alors, il s'agit d'un petit objet, une petite amulette effectivement métallique qui fait 2 cm de diamètre, qui a été trouvée par une très grande équipe d'archéologie, celle de Jean-François Jarige, au-dessus de la vallée de l'Indus, en 1985.
Au Pakistan.
Au Pakistan actuel, voilà, et qui est un objet d'une extrêmement important pour l'histoire de l'humanité, je dirais, de la métallurgie, puisqu'il s'agit du premier objet qui a été façonné avec une technique métallurgique très complexe, qui existe encore aujourd'hui, et qui s'appelle la fonte à la cire perdue. Le développement de cette technique a totalement changé l'utilisation des métaux, puisque à l'issue de la mise au point de cette technique, on a su réaliser des objets de forme complexe, typiquement des représentations des sculptures, jusqu'à des objets d'une très grande précision que l'on retrouve aujourd'hui, cette technique étant encore utilisée de nos jours. Et effectivement, les travaux sur cet objet ont commencé à l'issue de sa découverte, mais les équipes qui ont commencé à l'étudier, notamment au Centre de recherche et de restauration des musées de France, avec le musée Guimet, se sont retrouvées rapidement devant une grande difficulté, qui était que l'objet était totalement corrodé. Et donc, il a fallu attendre littéralement 30 ans avant que cet objet soit réétudié sur installation synchrotron, et là pour découvrir en fait que s'il était corrodé, pour autant l'ensemble de sa structure métallurgique initiale, la structure du métal tel qu'il s'est formé lors de sa fabrication, avait été intégralement fossilisé. Voilà, donc lors de la corrosion, et c'est typique de la fossilisation, on a à la fois changement complet de la forme chimique du matériau, qui en l'occurrence de métal devient de la cuprite, un oxyde de la rouille, entre guillemets, enfin, ce qu'on dirait pour le fer, et pourtant, jusqu'à l'échelle nanométrique, en fait, la structure fine de ce matériau s'est préservée et l'observation, la mise en évidence...
Grâce au synchrotron soleil, on peut aller observer cette structure fine.
C'est ça, en allant faire des images par, comme vous le disiez, photoluminescence ultraviolet visible, on est en mesure de révéler en quelque sorte le contraste au sein de ce matériau et de redécouvrir toute cette structure fossile. Ce qui nous a permis, par la suite, en reprenant les conditions possibles de fabrication de cet objet, de trouver au degré près sa température de solidification, les températures de chauffe qui ont été nécessaires et ses conditions de fabrication.
Donc de reconstruire les toutes premières techniques de cette métallurgie.
Enfin, voilà, le mode de fabrication qui avait été employé pour probablement le plus ancien objet, ou en tout cas le plus ancien objet connu à ce jour, fabriqué par une technique de métallurgie complexe.
Isabelle Rouget, j'ai envie de vous faire réagir là-dessus parce qu'on parle de fossiles. Alors vous, c'est côté fossile que toutes ces techniques vous intéressent. Vous êtes spécialiste notamment des céphalopodes fossiles et puis vous dirigez aussi le patrimoine géologique du Muséum d'Histoire Naturelle. Alors on peut faire parler justement les fossiles. Et puis quoi, les cailloux qui entourent les fossiles
Oui, un peu tout. On peut trouver des informations dans les sédiments qui se trouvent autour des fossiles. Ils peuvent enregistrer des informations sur l'environnement, le milieu, et puis les fossiles eux-mêmes. Et puis toutes ces techniques non-invasives qui nous permettent d'observer l'intérieur d'un fossile, d'un organisme, nous permettent d'accéder à des informations anatomiques qu'on ne pouvait pas observer auparavant sans détruire le spécimen.
Oui, c'est ça, parce
le
que
couper.
Là, oui, là, c'est sans le toucher qu'on peut voir l'intérieur, c'est ça?
C'est tout à fait ça. Et puis les techniques vont réagir à des différences de densité qui sont vraiment très, très, très faibles. Et parfois, à l'œil nu, même si on coupe ce fossile, on ne verra pas la structure qui existe. Ça révèle vraiment. Alors, ça peut être des organes.
Ce qui est gravé dans la pierre, enfin, le fossile qui s'est inscrit dans la pierre, c'est ça?
Qui s'est transformé en pierre. Mmh. Et donc, les organes peuvent se fossiliser. Un cœur, un muscle, ça peut se fossiliser. C'est très difficile à voir, mais ça peut se fossiliser. Et c'est vrai que les techniques d'imagerie non-invasive ont complètement révolutionné ce champ. Et très régulièrement, on peut réanalyser des spécimens de collection, spécimens qui pouvaient être des spécimens étudiés depuis 200 ans.
Par exemple, dans les collections du muséum.
Donc par exemple, peut-être un spécimen qui est le plus emblématique du muséum en paléontologie, c'est un petit fossile qui a été trouvé dans les carrières de gypse de Montmartre au début du 19e et qui a été étudié par Cuvier en 1804 à peu près.
C'est un petit fossile
C'est un petit fossile de quelques dizaines, un peu plus d'une dizaine de centimètres et que Cuvier a dégagé. Le gypse, c'est une roche qui est assez tendre, avec laquelle on fait le plâtre par exemple. Et en le dégageant, il a pu démontrer que c'était un animal proche d'une sarigue ou d'un opossum, donc des petits marsupiaux qu'on trouve aujourd'hui en Amérique du Sud et du Nord.
Et donc c'était un fossile découvert à Montmartre, d'un petit marsupial.
D'un petit marsupial qui avait une trentaine de millions d'années. Donc qui nous indiquait qu'à l'époque, à Paris, où se trouve Paris actuellement, on avait un climat très différent, on avait une biodiversité très différente. Et donc ça nous raconte un petit peu un état de l'histoire de la Terre un peu différent d'aujourd'hui sur cette
région. Et en réexaminant ce marsupial de Cuvier.
Alors, qu'est-ce qu'on pouvait dire d'un fossile aussi connu, exposé dans la galerie de paléontologie, qui a été étudié brillamment par Cuvier il y a 200 ans? Et bien, il a été réexaminé par des collègues du muséum qui se sont dit qu'il était presque sûr qu'il y avait d'autres éléments crâniens, notamment à l'intérieur de la gangue du fossile. Et ils ont utilisé le scanner et ils ont pu observer toute la dentition, mais également tous les os du crâne qu'ils ont pu reconstruire virtuellement et isoler. Et ils ont pu montrer que finalement, Cuvier s'était un petit peu trompé et que c'était pas non plus une sarigue telle
que sont les sarigues actuellement, notamment en regardant des éléments du crâne et des éléments de l'oreille, de l'os pétreux.
Ah oui, c'est incroyable. Du coup, c'est un marsupial quand même, mais c'est pas tout à fait celui qui avait
imaginé. C'est un marsupial quand même, mais ce n'est pas exactement le même que Cuvier imaginait, très proche des sarigues, et qui remet un petit peu en cause l'histoire qu'on imaginait des marsupiaux. En tous les cas, de ces petits groupes de marsupiaux tels que les sarigues ou les opossums.
Mais c'est étonnant quand même. On parle de révolution, de renouveau, mais il y a un avenir incroyable pour ces sciences du patrimoine, parce que il y a évidemment sur le terrain tout ce qu'on peut découvrir aujourd'hui et analyser autrement, mais il y a aussi effectivement tout ce qu'il y a déjà dans les collections, des musées d'art, des musées archéologiques, dans tout ce patrimoine culturel et naturel, si on peut aller voir très très loin et au plus fin à l'intérieur sans, en tout cas en le touchant et en l'altérant le moins possible, c'est un champ de recherche considérable, Loïc.
Alors en fait, on touche, je pense, à une question absolument fondamentale et qui, moi, m'intrigue beaucoup. Isabelle Rouget a parlé d'enregistrement. À quel point reste-t-il, après typiquement 200 années d'études, de l'information archivée dans nos matériaux? C'est-à-dire aujourd'hui, quand on regarde un objet comme la rouelle que j'évoquais tout à l'heure ou les fossiles dont parlait Isabelle Rouget, est-ce que on est aujourd'hui à même de capter 90% de l'information ou seulement 10%? Est-ce qu'on va encore continuer à avoir des découvertes majeures comme on en a aujourd'hui?
Ça, c'est un point d'interrogation.
C'est un point d'interrogation, mais typiquement, l'exemple de la rouelle ou de la petite amulette de Mergar montre précisément ça. Un objet qui était jugé il y a seulement 30 ans perdu pour la science parce que totalement corrodé, d'un seul coup peut être réanalysé avec une approche qui n'avait jamais été utilisée jusque-là pour l'archéologie.
Avec d'autres yeux, enfin, avec d'autres outils, mais avec d'autres yeux.
Hein. Et donc effectivement, il faut à la fois que nos objets d'études évoluent avec nos yeux et il s'agit bien de ça. C'est-à-dire que la mise en place de ce champ disciplinaire ou les rencontres mondiales qu'on organise actuellement, c'est bien pour dire attention, on est à un moment où vraiment il y a des bascules importantes dans la façon de voir nos objets et dans la façon de les travailler.
Et partout dans le monde, autour de la question comment rendre visible l'invisible grâce à ces sciences du patrimoine, on continue de s'interroger sur le temps long avec la tête savante, groupe de hip-hop sud-africain, To Me and the Volume, sur RFI.
Restless and distressed, feeling wretched. The perspiration filled his vest, full of sweat. Mr. Step quickly checks what the F he is endless. Lightheaded, no, actually headless. Checks under the mattress and on the headrest. Good heavens, this mess here needs a detective. Lived on the hill with his house on the edge of it. Far from the world to pretend he's a president. Bowen heads roll, he's a peasant again. He's not special, just a resident with no head though. So the searchers can be sick his friends though. But he seems worse than him. They vow to assist each other in this mission. Brother fellowship to find the tower where they reign. Power is main, consciousness, heaven is the way we name our kids, bury our kin, pray away our sins until the day it ends. On they ran through the desert, through venomous temperatures, searching for references, relics and evidence, something incredible there in the distance. They find their heads again, they rejoice, celebrate the gathering, spend their whole day happy in the marriage. Journey could break me in half if I wasn't as open. I'll rewrite the motives to guide me up the notions. Following the shadow shower of a power stronger and larger than oldest. Celebrated their liberation with so much libation. When the morning came, they had lost their heads.
La tête savante, le groupe To Me and the Volume sur RFI. Loïc Bertrand, c'est ce genre de musique que vous passez dans les oreilles pendant que vous faites vos manipulations au synchrotron soleil?
Alors effectivement, la manipulation sur synchrotron, les manips, c'est des périodes qui sont tout à fait particulières dans notre temps de travail. Ce sont des durées, enfin des expériences qui sont menées sur des durées de 3 ou 4 jours, où d'un seul coup, tous les spécialistes convergent en fait. sur autour de l'instrument.
Donc sur votre plateforme Ipanema,
sur le synchrotron Soleil et effectivement le laboratoire Ipanema qui est attenant. Et donc depuis le conservateur, l'archéologue, le paléontologue, jusqu'au physicien, chimiste, spécialiste de traitement de données et d'instrumentation, vont tous se retrouver autour de ce temps expérimental qui est très précieux et qui est pour nous l'endroit ou un des endroits où l'interdisciplinarité vraiment se construit. Il faut prendre des décisions très rapides.
Si on explore ceci ou cela, qu'est-ce
exactement,
qu'il faut chercher, quelles
questions. Le paradigme d'études change, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'un seul coup, on se dit, ah, mais il faut regarder absolument ça, et c'est des grandes décisions à prendre sur un temps très court. Je dirais comme sur le terrain. Et la musique, effectivement, accompagne toutes ces expériences qui se poursuivent en fait 24 heures sur 24, jour et nuit. Et donc, c'est vrai que c'est un moment que je pense beaucoup de collègues apprécient tout à fait particulièrement.
Autour de la question comment réinventer ces sciences du patrimoine durant ces longues journées et ces longues nuits, notamment au synchrotron Soleil, comment toutes ces sciences révolutionnent aujourd'hui l'étude, la conservation des œuvres d'art comme des fossiles et des objets archéologiques à l'occasion donc des premières rencontres mondiales à Paris entre patrimoine, sciences et techniques. Tout de suite, une nouvelle question pour les chercheurs et chercheuses que vous êtes, Caroline Tokarski, Isabelle Roger. Elle est signée Sylvain Guibaud de La Recherche.
Il y a beaucoup d'outils qui ont été développés pour étudier le patrimoine, en particulier grâce à la physique avec les rayons X. Il existe aussi des accélérateurs de particules qui sont utilisés pour étudier les objets du patrimoine, notamment au Louvre, il y a un accélérateur de ce type. Et on utilise aussi des muons, donc des particules invisibles pour étudier des objets comme les pyramides. Est-ce que les physiciens ont encore d'autres tours dans leur sac pour inventer d'autres appareils qui seraient utiles pour explorer le patrimoine ?
Isabelle Rouget, vous avez une réponse à cette question. Quels grands instruments la physique peut inventer? Quelles nouvelles méthodes d'analyse la chimie pourrait aussi inventer
Alors moi, je suis pas physicienne, mais j'imagine que les physiciens ont quelques tours à nous faire découvrir. Mais je crois aussi que l'intégration de différentes techniques de la physique, mais aussi de la chimie, et l'intégration comme ça de plusieurs techniques d'analyse du matériau va permettre de découvrir de nouvelles façons de les étudier.
C'est ensemble finalement.
C'est de plus en plus le cas, c'est-à-dire qu'on commence à combiner de plus en plus de techniques. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'imagerie, on faisait que de l'imagerie sur nos fossiles, que extraire une image de CT scan. Et puis maintenant, on commence à essayer dessus d'utiliser d'autres techniques analytiques et de pouvoir faire converger toutes ces techniques pour faire comme un voyage complet à l'intérieur de l'objet, avec toutes les informations qu'il contient, et spatialement et à très faible résolution. Donc avoir une espèce de connaissance détaillée de l'ensemble du spécimen.
Ce qui veut dire aussi, Isabelle, que ça change la manière dont on fait les recherches sur le terrain, qu'il faut les faire différemment, recueillir différemment ces fossiles ou ces objets archéologiques.
Oui, ça change tout à fait la manière dont on va travailler sur le terrain. Typiquement, en paléontologie, sur le terrain, on fouille, on voit un fossile, un os, une coquille, on commence à le dégager, puis ensuite on l'extrait en faisant une gangue assez large tout autour. On sait aujourd'hui que pour certaines des techniques de CT scan ou d'imagerie tomographique au synchrotron, c'est pas forcément ce qu'on a de mieux à faire. Il vaut mieux agir le moins possible sur le terrain, sur l'objet, utiliser le moins de matériaux extérieurs, de colle, de différents objets, et essayer de le dégager le plus largement possible. Et ensuite, les techniques non invasives vont pouvoir nous permettre de travailler là-dessus sans l'altérer.
Loïc Bertrand, toutes ces nouvelles techniques finalement changent la manière dont on peut travailler sur le terrain. Est-ce qu'il s'agit d'inventer de nouveaux outils, de nouvelles techniques, ou est-ce qu'il s'agit de encore plus travailler en interdépendance, en interdisciplinarité, de changer aussi un peu notre regard au moment où on recueille ou pour conserver les œuvres d'art? C'est une question de regard, c'est une question d'outils.
Je pense qu'effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut bien imaginer que finalement, ces outils sont pour nous notre regard. Et c'est, je ne vois pas, pour moi, de différent. Il n'y a pas de différence fondamentale entre l'œil qui est si fin de l'archéologue, du paléontologue et du conservateur, et le regard porté par par nos outils. Donc effectivement, il y a un balancement entre le développement de nouvelles méthodes et l'évolution de ce regard sur les objets. Mais Isabelle le disait aussi tout à fait justement, le fait de pouvoir coupler des approches complémentaires est absolument central. C'est quelque chose qu'on essaye par exemple d'harmoniser dans le cadre d'une infrastructure européenne qui s'appelle ERIS et qui regroupe ces grands centres d'études du patrimoine au niveau européen. Et il s'agit bien de ça, de varier les regards pour des matériaux qui sont d'une grande complexité pour pouvoir mieux les appréhender.
Varier les regards, ça vous va aussi, Caroline
oui,
Tokarski, par rapport
à ces œuvres d'art Loïc, sur, que ce soit sur les œuvres d'art ou sur les échantillons archéologiques. C'est vrai qu'on va, alors, avec mon équipe, on va travailler sur une question donnée et on a besoin aussi des autres techniques pour essayer de relocaliser ce qu'on est en train de regarder. Donc les techniques d'imagerie sont aussi très importantes en fait pour nous et on va essayer de travailler avec des expertises.
Et est-ce que les questions changent au fur et à mesure de ce qu'on découvre? Isabelle disait que sur le terrain, du coup, il faut peut-être travailler autrement en archéologie. Oui. Alors, c'était différent.
Sur le terrain, alors je dirais sur le terrain, oui aussi, parce que même les musées, ou comme on prenait l'exemple du Met tout à l'heure, ont des archéologues et c'est vrai que les objets sont conservés d'une certaine manière parce qu'ils ont été analysés jusqu'alors avec certaines techniques. Nous, on s'est rendu compte en fait que certaines conservations étaient problématiques en fait pour nous et cela nécessite d'autres. Alors c'est des règles qu'on est en train de placer hein, sur des nouvelles façons de prélever, de conserver, dans quel type de contenant en fait pour pas avoir de la désorption de matériaux comme des plastiques par exemple qu'on va très bien voir justement par spectrométrie de masse et qui vont avoir tendance à polluer entre guillemets notre signal. Donc ça c'est pour répondre à la partie de prélèvement. Après, l'évolution de ce qu'on va, en tout cas de la recherche qu'on va faire, je peux donner un exemple. On travaille sur des amphores biberons du 1er siècle où la question première des archéologues était d'identifier est-ce qu'il y a du lait dans ces amphores biberons, quelle était l'espèce biologique. Alors d'ailleurs, on les a déçus d'ailleurs parce que c'était pas du lait humain, mais bon. Et la question suivante était mais est-ce que le lait a été chauffé? Alors là, c'est encore une fois. On est en train de répondre avec des modifications chimiques en fait qui sont des réactions de Maillard qui ont été produites
quand les sciences du patrimoine peuvent nous parler des amphores biberons et savoir si les mamans de l'époque chauffaient le lait de leur bébé. On n'a pas fini non justement, mais malheureusement l'émission est finie. Donc merci infiniment Caroline Tokarski, Loïc Bertrand et Isabelle Rouget d'être venues en direct nous faire partager vos recherches, vos découvertes, votre enthousiasme aussi pour ces sciences du patrimoine. Je rappelle que les premières rencontres mondiales patrimoine, sciences et techniques se déroulent à Paris, à l'Institut de France jusqu'au 16 février. Le lien est sur notre page. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver lundi, chers amis auditeurs, pour partager ensemble de nouvelles interrogations avec Hugo Violas à la réalisation et Tania Tsikounas en coulisses. Merci de votre curiosité, sans cesse renouvelée, surtout gardez l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de la Radio Mondiale, le prochain journal dans une minute.